Deuxième jour. Chai enfonça l'ongle dans l'un des blocs de pierre de sa cellule. La pierre céda légèrement. Elle frotta la poussière entre ses doigts. Du calcaire. Curieux matériau pour un mur de prison. Mais le mur entier n'était pas fait de calcaire, simplement cette unique veine à l'intérieur du bloc. Elle sourit. Du calcaire. Cette petite veine était facile à manquer. Mais si elle avait raison sur ce point, elle avait enfin identifié les 44 types de pierres formant le mur du puits circulaire qui lui tenait lieu de cachot. Chai s'agenouilla près de sa couchette et se servit d'une fourchette, dont elle avait replié toutes les dents au fun, pour graver des notes dans le bois d'un des pieds du lit. Sans ses lunettes, elle devait plisser les yeux en écrivant. Pour falsifier quelque chose, il fallait connaître son passé, sa nature. Elle était quasiment prête. Cependant, son plaisir se dissipa très vite lorsqu'elle aperçut une autre série de marques sur le pied de lit, éclairée par sa bougie vacillante. Ces marques-là tenaient le compte de ses jours d'emprisonnement. « Si peu de temps », songea-t-elle. Si ses calculs étaient justes, il ne lui restait qu'une journée avant la date arrêtée pour son exécution publique. Au plus profond d'elle-même, ses nerfs étaient aussi tendus que les cordes d'un instrument de musique. Une journée. Une journée pour créer un spiritemp et s'échapper. Mais elle ne disposait pas de spirilite, seulement d'un bout de bois grossier, ainsi que d'une fourchette en guise de burin. Ce serait incroyablement ardu. C'était bien le but. Cette cellule était conçue pour les gens comme elle. Bâtie à l'aide de pierres possédant de nombreuses veines rocheuses différentes qui les rendaient difficiles à falsifier. Elles devaient provenir de diverses carrières et posséder chacune une histoire unique. En connaissant si peu de détails, il serait quasiment impossible de les falsifier. Et même si elles transformaient bel et bien la roche, il devait y avoir une autre sécurité intégrée pour l'arrêter. Nom des nuits. Dans quel pétrin s'était-elle fourrée? Ses notes terminées, elle étudia sa fourchette tordue. Elle avait commencé à sculpter la poignée de bois, après en avoir arraché la partie métallique, pour façonner un spiritemp grossier. « Tu ne sortiras jamais d'ici comme ça, Chai !» se dit-elle. « Il te faut une autre méthode !» Elle avait attendu 6 jours, cherchant une autre issue. Des gardes à utiliser, quelqu'un à soudoyer, un indice quant à la nature de sa cellule. Jusqu'ici, rien n'avait. Loin au-dessus d'elle, la porte des cachots s'ouvrit. Chai se releva d'un bond et cacha la fourchette sous sa ceinture au creux de ses reins. Avait-il avancé la date de son exécution? De lourdes bottes résonnèrent sur les marches et elle plissa les yeux pour regarder les nouveaux venus qui apparurent au-dessus de sa cellule. 4 d'entre eux étaient des gardes, qui accompagnaient un homme au visage et aux doigts allongés. Ils faisaient partie des éminents, la caste qui dirigeait l'Empire. Cette robe bleue et vert indiquait un petit fonctionnaire qui avait réussi l'examen, lui permettant de travailler au service du gouvernement, mais ne s'était pas élevé très haut en son sein. Chai patienta, les nerfs à fleur de peau. L'éminent se pencha pour la regarder à travers la grille. Il marqua une pause infime, puis fit signe aux gardes de la déverrouiller.
« Les arbitres souhaitent vous interroger, faussaire !»
Chai garda ses distances tandis qu'ils ouvraient le plafond de sa cellule, puis faisaient descendre une échelle. Elle la gravit avec circonspection. Si c'était elle qui devait conduire une prisonnière à son exécution anticipée, elle lui ferait croire qu'il se passait autre chose, afin qu'elle ne résiste pas. Cependant, ils la menèrent hors du cachot sans la menotter. À en juger par leur itinéraire, Il semblait effectivement la conduire vers le bureau des arbitres.
Shai se calma.
Un nouveau défi dans ce cas. Une opportunité, peut-être. Elle n'aurait pas dû se laisser capturer, mais elle ne pouvait plus rien y faire à présent. Elle avait été battue, trahie par le fou impérial à qui elle avait cru pouvoir faire confiance. Il avait pris sa copie du sceptre de lune et l'avait remplacée par l'original avant de s'enfuir. L'oncle Won avait appris à Shai que se faire battre était l'une des règles de la vie. Que, si doué que l'on puisse être, il existait toujours quelqu'un de meilleur. Si l'on gardait constamment ce fait en mémoire, on ne devenait jamais sûr de soi, au point de sombrer dans la négligence. La dernière fois, elle avait perdu. Cette fois-ci, elle allait gagner. Elle se délesta de toute la frustration engendrée par sa capture pour devenir la personne qui saurait faire face à cette nouvelle occasion, quelle qu'elle fût. Elle allait s'en saisir et réussir. Cette fois, l'enjeu n'était pas des richesses, mais sa vie. Les gardes étaient des cogneurs, du moins les éminents les nommaient-ils ainsi. Ils se faisaient autrefois appeler les Muladils, mais l'Empire avait absorbé leur nation depuis si longtemps que peu d'entre eux utilisaient encore ce nom. Les cogneurs étaient un peuple de grande taille, au teint pâle, musclé, maigre et nerveux. Ils avaient les cheveux presque aussi sombres que ceux de Shai, bien que les leurs fussent bouclés, alors qu'elle les avait raides et longs. Elle s'efforçait, en y parvenant presque, de ne pas se sentir minuscule auprès d'eux. Son peuple, les Meipon, n'était pas connu pour sa grande taille. « Vous, » dit-elle au cogneur qui ouvrait la marche à côté d'elle, « je me souviens de vous. » À en juger par sa chevelure soigneusement coiffée, le jeune capitaine ne portait pas souvent de casque. Les cogneurs étaient bien considérés par les éminents, et il n'était pas rare qu'ils bénéficient d'une élévation. Celui-ci affichait une expression avide. Cette armure bien astiquée, cet air brusque. Oui, il se pensait promis à un brillant avenir. « Le cheval, » poursuivit Shai. « Vous m'avez jeté sur le dos de votre cheval après ma capture. Un bel animal, de lignée gurde, d'un blanc pur. Une brave bête. Vous vous y connaissez en chevaux ?» Le cogneur continua à regarder devant lui, mais murmura tout bas. « Je vais prendre plaisir à vous tuer, femme !»« Charmant !» songea Shai, tandis qu'ils entraient dans l'aile impériale du palais. Ici, la maçonnerie était stupéfiante, conçue d'après l'ancien style lamio, avec des colonnes de marbre élancées ornées de reliefs. Les grosses urnes placées entre elles imitaient la poterie lamio d'antan. « C'est vrai, » se rappela-t-elle. « C'est toujours la faction de l'héritage qui gouverne. » L'empereur devait appartenir à cette faction, tout comme le conseil de 5 arbitres responsables de la majeure partie des décisions du gouvernement. Leur faction louait la gloire et l'érudition des cultures passées. Et elle était même allée jusqu'à rebâtir son aile du palais dans un style imitant un bâtiment d'antan. Shai soupçonnait que le dessous de ces urnes anciennes comportait les spirit temples qui les avaient transformés en imitations parfaites d'œuvres célèbres. Oui, les éminents qualifiaient d'abomination les pouvoirs de Shai, mais le seul aspect réellement illégal consistait à créer un falsificat destiné à transformer un individu. La falsification discrète des objets était autorisée et même exploitée au sein de l'Empire, tant que le faussaire était soigneusement contrôlé. Si quelqu'un devait retourner l'une de ces urnes et retirer le sceau qui se trouvait en dessous, l'objet redeviendrait une simple poterie nue. Les cogneurs la conduisirent jusqu'à une porte incrustée d'or. Lorsqu'elle s'ouvrit, Shai parvint à entrevoir sur l'un des coins inférieurs le spirit-temple rouge qui lui donnait l'aspect d'une œuvre du passé. Les gardes la firent entrer dans une pièce accueillante, avec une cheminée crépitante, des tapis moelleux et des meubles en bois teinté. Pavillon de chasse du 5e siècle, devina-t-elle. Les 5 arbitres de la faction de l'héritage attendaient à l'intérieur. 3 d'entre eux, 2 femmes, un homme, étaient assis près de la cheminée, sur des chaises à dossier droit. Une autre femme occupait le bureau situé juste au-delà de la porte. Frava, la plus haut placée des arbitres de la faction de l'héritage. Sans doute la personne la plus puissante de tout l'Empire, en dehors de l'empereur Ashravan lui-même. Ses cheveux grisonnants formaient une longue tresse agrémentée de rubans rouges et or, laquelle reposait sur une robe d'une teinte or assortie. Shai s'était longuement demandé comment voler cette femme, car Frava, entre autres tâches, surveillait la galerie impériale et possédait des bureaux adjacents. Frava venait visiblement de se disputer avec Gautona, le vieil éminent qui se tenait raide comme un piquet près du bureau, les mains derrière le dos, l'air songeur. Gautona était le plus âgé des arbitres dirigeants. On racontait qu'il était le moins influent d'entre eux, qu'il avait perdu les bonnes grâces de l'empereur. Tous deux se turent lorsque Shai entra. Ils la regardèrent comme un chat venant de renverser un vase coûteux. Shai regretta l'absence de ses lunettes, mais prit soin de ne pas plisser les yeux, tandis qu'elle s'avançait pour affronter ses gens. Elle devait paraître aussi forte que possible. « Wan Shai Lu !» déclara Frava en ramassant une feuille de papier sur le bureau. « On vous attribue une liste de crimes impressionnantes !»« Vous avez une façon de dire ça ?» À quoi jouait cette femme ?« Elle attend quelque chose de moi !» décida Shai. « C'est la seule raison de m'amener ici de cette manière !» La véritable raison de sa présence ici commença à apparaître. « Usurper l'identité d'une noble de rang élevé ?» poursuivit Frava. « Pénétrer par effraction dans la galerie impériale du palais ? Falsifier votre âme ? Sans oublier, bien sûr, la tentative de vol du sceptre de lune ? Pensiez-vous vraiment que nous n'allions pas reconnaître une simple imitation d'un trésor impérial si important ?»«
Apparemment, se dit Shai, c'est ce que vous venez de faire ?» À supposer que le fou se soit enfui avec l'original.
Elle éprouva un petit frisson de satisfaction à l'idée que sa copie occupe à présent la place d'honneur du sceptre de lune dans la galerie impériale.
Et que dire de ceci ?
Demanda Frava, qui agita ses longs doigts pour demander à l'un des cogneurs de lui apporter un objet posé contre un mur de la pièce. Il s'agissait d'un tableau que le garde plaça sur le bureau. Le chef-d'œuvre de Han Shugzhen, Nénuphar sur étang printanier.
« Nous avons trouvé ceci dans votre chambre de l'auberge, » déclara Frava en tapotant la toile du bout des doigts. « C'est une copie d'un tableau que je possède moi-même, l'un des plus célèbres de l'Empire. Nous l'avons remis à nos experts qui ont estimé que votre contrefaçon était un travail d'amateur, dans le meilleur des cas. »
Shai soutint son regard.
« Dites-moi pourquoi vous avez créé cette copie, » ordonna Frava en se penchant vers elle. « De toute évidence, vous comptiez l'échanger contre le tableau qui se trouve dans mon bureau près de la galerie impériale. Et pourtant, vous visiez le sceptre de lune lui-même. Pourquoi projeter de dérober aussi le tableau ? Par cupidité ?
Mon oncle Won, répondit Shai, m'a appris qu'il fallait toujours un plan de secours. Je ne pouvais même pas être sûre que le sceptre serait exposé.
Ah !
Frava adopta une expression quasi maternelle, quoique teintée de dégoût, qu'elle cachait mal, et de condescendance.
Vous avez demandé que les arbitres interviennent au sujet de votre exécution, comme le font la plupart des prisonniers. J'ai décidé, sur une impulsion, d'agréer votre requête, car j'étais curieuse de connaître les raisons pour lesquelles vous aviez créé ce tableau.
Elle secoua la tête.
Mais, mon enfant, vous ne pouvez sincèrement pas espérer que nous vous laissions repartir. Avec des péchés comme les vôtres, vous vous trouvez dans une situation exceptionnellement fâcheuse, et notre clémence a des limites.
Shai lança un coup d'œil furtif aux autres arbitres. Ceux qui étaient assis près du foyer ne semblaient lui prêter aucune attention. Mais ils ne parlaient pas entre eux. Ils écoutaient.
« Quelque chose ne va pas », songea Shai. « Ils sont inquiets. »
Gautona se tenait toujours sur le côté. Il observait Shai sans trahir la moindre émotion. Frava arborait la mine de quelqu'un qui gronde un petit enfant. En laissant ainsi la fin de sa phrase en suspens, elle voulait laisser espérer à Shai une libération possible. Cette association était censée la rendre docile, disposée à accepter n'importe quoi, dans l'espoir qu'on la libère.
Une opportunité, en effet.
Il était temps de prendre les rênes de cette conversation.
« Vous attendez quelque chose de moi ?» déclara Shai. « Je suis prête à parler de mon paiement. »«
Votre paiement ?» s'écria Frava. « Jeune fille, vous allez être exécutée demain. Si nous souhaitions quelque chose de vous, c'est votre vie qui tiendrait lieu de paiement. »«
Ma vie n'appartient qu'à moi, » répondit Shai. « Depuis bien des jours, déjà. »«
Je vous en prie, » répliqua Frava. « Vous étiez enfermé dans la cellule des faussaires, avec 30 sortes de pierres différentes dans le mur. »«
44, en réalité. »
Gautona haussa un sourcil approbateur.
« Nom des nuits, contente d'avoir deviné juste. »
Shai lança un regard en coin à Gautona.
« Vous pensiez que je ne reconnaîtrais pas la pierre à meule, n'est-ce pas ?»« De grâce, je suis une faussaire. » J'ai appris la classification des pierres lors de ma première année de formation. Ce bloc provenait manifestement de la carrière de l'Aïo.
Frava ouvrit la bouche pour parler, un petit sourire aux lèvres.
Oui, je suis au courant de la présence des plaques de Ralkalest, le métal infalsifiable caché derrière le mur de pierre de ma cellule, poursuivit Shai. Le mur était une énigme destinée à me distraire. Vous ne bâtiriez pas vraiment une cellule avec des pierres comme le calcaire, juste au cas où un prisonnier renoncerait à la falsification et tenterait de s'échapper en effritant le mur. Vous avez construit ce mur, puis vous l'avez sécurisé au moyen d'une plaque située derrière pour empêcher toute évasion.
Frava referma brusquement la bouche.
Seul problème avec le Ralkalest, enchaîna Shai. Ce n'est pas un métal très robuste. « Oh, la grille qui surmontait ma cellule était solide, et je n'aurais pas pu la franchir. Mais une plaque aussi fine? Franchement, vous avez déjà entendu parler de l'anthracite ?»
Frava fronça les sourcils.
« C'est une pierre qui brûle, » répondit Gautona.
« Vous m'avez donné une bougie, » déclara Shai, en plongeant la main au creux de ses reins.
Elle lança le spiritemple de fortune en bois sur le bureau.
Il m'aurait suffi de falsifier le mur et de persuader les pierres qu'elles étaient de l'anthracite, ce qui n'était pas une tâche très compliquée une fois que je connaissais les 44 types de roches. J'aurais pu les brûler et elles auraient fait fondre cette plaque derrière le mur.
Shai tira une chaise et s'assit devant le bureau. Elle s'appuya sur le dossier. Derrière elle, le capitaine des cogneurs gronda tout bas. Mais Frava pinça les lèvres sans mot dire. Shai laissa ses muscles se détendre et murmura une prière muette au dieu inconnu. Nom des nuits. Il semblait vraiment avoir tout gobé. Elle avait craint qu'il n'en sache assez sur la falsification pour percer à jour son mensonge.
« Je comptais m'enfuir ce soir, » reprit-elle. « Mais ce que vous attendez de moi doit être important, puisque vous êtes disposé à impliquer une scélérate comme moi. » Nous en venons donc à la question de mon paiement.
« Je pourrais toujours vous faire exécuter, » rétorqua Frava. « Ici, maintenant.
Mais vous n'en ferez rien, n'est-ce pas ?»
Frava serra la mâchoire.
« Je vous avais prévenu qu'elle serait difficile à manipuler, »
dit Gautona à Frava. Shai voyait qu'elle l'avait impressionnée. Et cependant, son regard semblait triste. Était-ce la bonne émotion? Elle trouvait cet homme âgé aussi ardu à déchiffrer qu'un livre en svordois. Frava leva le doigt, puis le pointa sur le côté. Un serviteur approcha muni d'une petite boîte enveloppée dans une étoffe. Le cœur de Shai bondit lorsqu'elle le vit. L'homme ouvrit les fermoirs et souleva le couvercle. Le coffret était tapissé d'un tissu doux et comportait 5 encoches destinées à accueillir des spiritampes. Chacun des tampons de pierre cylindrique était aussi long et large qu'un pouce d'homme. Le carnet relié cuir, rangé au-dessus, était usé d'avoir souvent servi. Shai inspira une bouffée de son odeur familière. On appelait ces tampons « marque primordiale ». Et c'était le type de spiritemple le plus puissant. Chaque marque primordiale devait être accordée sur un individu bien précis, et elle était destinée à réécrire son histoire, sa personnalité et son âme pendant un bref laps de temps. Ces 5-là étaient accordés sur Shai.
5 tampons pour réécrire une âme, déclara Frava. 5 abominations dont la possession est illégale. Ces marques primordiales devaient être détruites cet après-midi. Même si vous vous étiez échappé, vous les auriez perdues. Combien de temps faut-il pour en créer une ?
Des années, chuchota Shai. Il n'en existait pas d'autres exemplaires. Il était trop dangereux de laisser des notes et des schémas, même cachés, car il fournissait trop d'indications sur son âme. Elle gardait constamment ses marques primordiales à portée de vue, sauf lors des rares occasions où on les lui prenait.
« Ce paiement vous conviendra-t-il ? » demanda Frava, dont les commissures des lèvres s'abaissèrent comme si elle parlait d'un repas de vase et de viande avariée.
« Oui. » Frava hocha la tête, et le serviteur fit claquer le couvercle du coffret.
« Dans ce cas, je vais vous montrer ce que vous devez faire. »
Shai n'avait encore jamais rencontré d'empereur, sans parler de lui tapoter le visage. L'empereur Ashravan des 80 soleils, 49e souverain de l'Empire de la Rose, ne réagit pas lorsque Shai le toucha. Il regardait fixement devant lui, les joues rondes et roses de santé, mais l'œil totalement vide d'expression.
« Que s'est-il passé ?»
demanda Shai en se redressant près du lit de l'empereur. Il était conçu dans le style de l'ancien peuple Lamyo, avec une tête en forme de phénix s'élevant vers le ciel. Elle avait vu dans un livre un croquis d'une tête de lit semblable. Sans doute avait-on tiré le falsificat de cette source.
« Des assassins !» répondit l'arbitre Gautona.
Il se tenait de l'autre côté du lit, en compagnie de 2 chirurgiens. Parmi les cogneurs, seul leur capitaine Zu avait été autorisé à entrer.
Les meurtriers se sont introduits ici il y a 2 nuits et ont attaqué l'empereur et son épouse. Elle a été tuée. L'empereur a reçu un carreau d'arbalète en pleine tête.
Compte tenu des circonstances, commenta Shai, il paraît dans une forme remarquable.
« Vous y connaissez-vous en recelage ?»
s'enquit Gautona.
« Vaguement, »
répondit Shai. Son peuple appelait ça la falsification charnelle. Grâce à elle, un chirurgien très doué pouvait falsifier un corps pour en retirer plaies et cicatrices. Elle nécessitait une spécialisation poussée. Le faussaire devait connaître chaque tendon, chaque veine et chaque muscle afin de pouvoir guérir le corps avec précision. Le recelage était l'une des rares branches de la falsification que Shai n'avait pas étudiée en profondeur. Si l'on se trompait en accomplissant une falsification ordinaire, on créait une œuvre de piètre qualité artistique. Si l'on se trompait avec la falsification charnelle, des gens mouraient.
« Nos recelleurs sont les meilleurs au monde !»
déclara Frava en marchant devant le pied du lit, main derrière le dos.
L'empereur a été traité très vite après la tentative d'assassinat. Sa plaie a la tête aguerrie, mais...
Mais pas son esprit,
demanda Shai, en agitant de nouveau la main devant le visage d'Ashravan.
Ça ne me donne pas l'impression qu'ils aient bien travaillé.
L'un des chirurgiens s'éclaircit la gorge. Un homme minuscule, aux oreilles évoquant des volets ouverts en grand un jour d'été.
Le recélage répare le corps et le recrée comme neuf. Ceci, en revanche, revient à relier un livre avec du nouveau papier à la suite d'un incendie. Oui, il est peut-être strictement identique en apparence, et il est peut-être complet. Mais les mots ont disparu. Nous avons donné un nouveau cerveau à l'empereur. Simplement, il est vide.
Ah ! S'exclama Shai. Avez-vous trouvé qui a tenté de le tuer ? Les cinq arbitres échangèrent des regards. Oui, ils le savaient.
Nous n'en sommes pas sûrs, éluda Gaotona.
Ce qui signifie, reprit Shai, que vous le savez, mais que vous n'avez pas pu le prouver avec assez de certitude pour formuler une accusation. Une des autres factions de la cour, dans ce cas ?
Gaotona soupira.
La faction de la gloire.
Shai siffla tout bas, mais il y avait là une certaine logique. Si l'empereur mourait, il était fort probable que la faction de la gloire remporte une enchère afin de désigner son successeur. À 40 ans, l'empereur Ashravan était jeune, selon les critères des éminents. On s'était attendu qu'il règne encore 50 ans. S'il était remplacé, les cinq arbitres présents dans la pièce perdraient leur place, ce qui, en matière de politique impériale, nuirait gravement à leur statut. Ils cesseraient d'être parmi les personnes les plus puissantes au monde pour faire partie des plus humbles parmi les 80 factions de l'Empire.
« Les assassins n'ont pas survécu à leur attaque, » expliqua Frava. « La faction de la gloire ignore encore si son stratagème a fonctionné. » Vous allez remplacer l'âme de l'empereur par...
Elle prit une profonde inspiration.
Par un falsificat.
Ils sont dingues, se dit Shai. Falsifier soi-même son âme était déjà bien assez difficile, et il n'était pas nécessaire de la reconstruire de zéro. Les arbitres ne se rendaient pas compte de ce qu'ils lui demandaient. Mais c'était logique. Ils détestaient la falsification, ou du moins, l'affirmait-il. Il marchait sur un sol imitant le carrelage, s'entourait de copies de vases anciens et laissait leur chirurgien réparer un corps. Mais ils n'appelaient rien de tout ça « falsification » dans leur langue. La falsification de l'âme, voilà ce qu'ils considéraient comme une abomination. Ce qui signifiait que Shai était réellement leur seule option. Personne au sein de leur gouvernement ne serait à même d'accomplir cette tâche. Sans doute qu'elles n'ont plus.
« En êtes-vous capable ?»
demanda Gaotona. « Je n'en sais rien, » songea Shai. « Oui, » affirma-t-elle.
« Il faudra que ce soit un falsificat exact !» précisa Frava d'une voix sévère. « Si la faction de la gloire a la moindre idée de ce que nous avons fait, elle va contre-attaquer. » L'empereur ne doit pas avoir de comportement illogique.
Je viens de vous dire que j'en étais capable, répliqua-t-elle. Mais ce sera délicat. J'aurai besoin d'informations sur Ashravan et sa vie, tout ce que nous pourrons obtenir. Les documents historiques officiels seront un début, mais ils seront insuffisants. Il me faut des témoignages détaillés provenant de ceux qui le connaissaient le mieux. Serviteurs, amis, membres de sa famille. « Tenait-il un journal ?»«
Oui, »
répondit Gaotona. « Parfait. »«
Ces documents sont scellés, »
objecta l'un des autres arbitres.
« Il voulait qu'ils soient détruits. »
Toutes les personnes présentes dans la pièce se tournèrent vers lui. Il déglutit, puis baissa les yeux.
« Vous aurez tout ce que vous demandez, » déclara Frava.
« Il me faudra aussi un cobaye, » ajouta Shai. Quelqu'un sur qui tester mes falsificats. Un éminent de sexe masculin, quelqu'un qui côtoyait souvent l'empereur et qui le connaissait bien. Ça me permettra de savoir si j'ai bien cerné sa personnalité. Nom des nuits. Bien cerner sa personnalité serait secondaire. Obtenir un tampon qui réussisse à prendre, ce serait la première étape. Elle n'était même pas sûre de la réussir.
Et il me faudra de la spirulite, bien sûr.
Frava la toisa bras croisés.
Vous ne pouvez quand même pas vous attendre que j'y parvienne sans spirélite,
se récria Shai d'une voix sèche. Je pourrais sculpter un tampon dans le bois, mais votre but sera déjà assez difficile à atteindre comme ça.
De la spirélite, en grande quantité.
Très bien, acquiesça Frava. Mais vous serez surveillé pendant ces 3 mois, et de près.
3 mois ? S'exclama Shai. Ça me prendra au moins 2 ans.
Vous avez 100 jours, dit Frava. Ou, plus exactement, 98 maintenant.
Impossible. L'explication officielle de l'absence de l'empereur ces 2 derniers jours,
intervint l'un des autres arbitres,
est qu'il porte le deuil de son épouse. La faction de la gloire doit supposer que nous cherchons à gagner du temps à la suite de la mort de l'empereur. Une fois les 100 jours écoulés, ils exigeront qu'Ashravan se présente à la cour. S'il ne le fait pas, nous sommes finis.
Et vous aussi, sous-entendait l'intonation de cette femme.
Il va me falloir de l'or pour ça, assura Shai. Offrez-moi le double de ce que vous pensez que je vais exiger. Je serai riche en quittant ce pays.
Marché conclu, répondit Frava.
Trop facile, se dit Shai. Charmant.
Il comptait la tuer quand tout ça serait terminé. Voilà en tout cas qu'il eut laissé 98 jours pour trouver une issue.
Apportez-moi ces documents, exigea-t-elle. Il va me falloir un endroit où travailler, des fournitures en abondance, et je veux qu'on me rende mes affaires.
Elle leva le doigt avant qu'il puisse protester.
Pas mes marques primordiales, mais tout le reste. Pas question que je travaille 3 mois avec les vêtements que je portais en prison. Et maintenant que j'y pense, demandez qu'on me fasse immédiatement couler un bain.